qui? 7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on s'interroge sur le permis de conduire. Formalité vite expédiée pour certains, et pour d'autres, au contraire, c'est une longue, douloureuse et coûteuse épreuve. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé que des cours de code seraient dispensés au lycée, permettant de réduire le coût du permis de conduire. Comment passer son permis à moindre coût et éviter les arnaques? C'est une vraie question. On va en discuter avec deux moniteurs d'auto-école. Stéphane Massard, bonjour.
Bonjour.
Vous exercez en région parisienne avec les embouteillages. Est-ce qu'on peut encore apprendre à conduire dans Paris et ses banlieues?
On peut toujours apprendre. Maintenant, Paris est une ville constamment embouteillée, donc la formation, elle va en pâtir.
Ouais. Et taux de réussite à l'examen à Paris, moins de 50%. Je crois que c'est un des plus mauvais taux de réussite en France avec les Yvelines et la Guadeloupe. On sera également en ligne avec un autre professeur en auto-école, Fabie Jaglard, moniteur à l'auto-école Braza, qui est située dans la capitale du Congo, Brazzaville. Avec nous également Rémi Jossaume. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste du droit routier, président de l'Automobile Club des avocats. Le permis, c'est bien, mais encore faut-il le conserver. Dans un pays où les infractions sont sanctionnées par des amendes et des suppressions de points au permis, c'est le cas d'un pays comme la France, comment récupérer ces points perdus? On en parlera aussi avec vous, les voisins. On attend vos témoignages, succès, galères au permis de conduire, un seul numéro de téléphone. Surtout, vous le composez dès maintenant. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp. Vous pouvez nous laisser des messages écrits, mais pour nous parler, il faut nous appeler en direct. On est là, on vous attend.
C'est amusant, mon fils passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois.
Quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Souleymane au Burkina Faso, il nous dit ici le permis n'est pas accessible à tout le monde à cause du tarif. 175 000 à 200 000 francs CFA, ça fait 266 euros à 304 euros. Donc effectivement, comparé au salaire minimum, bah, on est à peu près dans les mêmes ratios que la France. Et il nous dit ce que disent beaucoup de jeunes en France, je n'ai pas les moyens. Souvent la qualité de la formation laisse à désirer, nous dit Souleymane. Beaucoup de gens payent les moniteurs pour obtenir le permis, ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Un voisin témoigne, j'ai dû faire établir un permis nigérian à durée limitée. Je n'ai même pas eu à présenter mon permis français. J'ai dû remplir des fiches de renseignement, payer des taxes, sans reçu, sans récépissé. Deux mois après, j'ai eu le permis nigérian. Il y a une blague qui circule. Au Nigeria, la moitié des conducteurs disposent de faux permis de conduire. L'autre moitié n'a pas de permis du tout. Voilà. Écoutez aussi le message posté sur WhatsApp de ce voisin au Cameroun.
Bonjour voisin, bonjour voisine. Je m'appelle Christian et je vis au Cameroun. Il n'y a pas un réel problème d'accessibilité ou d'obtention de permis de conduire. Il est même facilement accessible car avec la corruption ambiante, avec une somme allant de 25 à 50 000 francs, vous obtenez le passeport que vous souhaitez, que vous sachiez tenir un volant ou pas. Des faux permis de conduire, du moins des faux vrais permis de conduire, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, car ceux qui les ont, les obtiennent par les autorités compétentes. Toutefois, elles n'ont pas les capacités réelles à pouvoir bien conduire.
7 milliards de voisins.
On est ensemble.
C'est l'attitude qui gagne.
La corruption et le permis de conduire, Rémi Jossaume et Stéphane Massard, c'est quelque chose qui existe aussi en France?
Ah oui, il y a quelques cas un peu isolés, hein, faut être honnête, où il y a eu des collusions entre inspecteurs, auto-écoles, fonctionnaires de préfecture. C'est très rare. Et généralement, ils sont quand même rapidement identifiés et débusqués. Je crois que c'est une préfecture d'Île-de-France hein, qui récemment avait en son sein un fonctionnaire qui était particulièrement facile à corrompre. Bon, bah, le poteau rose a été quand même relativement rapidement découvert. Et les procès, évidemment, se préparent dans ce genre de situation. Parce que derrière... Oui, c'est vrai qu'il y a la problématique de l'argent. Beaucoup de gens, moi je défends des gens qui n'ont pas le permis de conduire. Souvent, ils vont expliquer au tribunal, au juge que c'est un problème financier. Mais parfois, assez étonnamment, ils ont la voiture. Donc ils ont fait en fait le choix entre le permis et la voiture. Ils ont privilégier la voiture. Le permis, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même de l'argent. Ils ont de l'argent pour ce qu'ils veulent avoir. Mais ils le vivent comme un tracas administratif.
Comment on peut avoir une voiture si on n'a pas de permis de conduire ?
Eh bien, la loi a été modifiée il y a quelques années parce qu'avant le 1er janvier 2017, on pouvait acheter un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Ça a été modifié par le législateur. Maintenant, quand vous achetez un véhicule, vous devez justifier de l'obtention du permis de conduire, de la catégorie du véhicule que vous achetez.
Parce qu'a priori, on n'achète pas une voiture pour la faire conduire par un chauffeur.
Non, mais ceci étant dit, on pouvait parfaitement aussi, je vais vous donner un exemple auquel moi je n'avais pas du tout pensé et auquel j'ai été confronté, une personne qui est aveugle, eh bien aujourd'hui ne peut plus acheter de véhicule à son nom, puisque par définition, il n'a pas le permis de conduire. Et ça existe, et effectivement, ces gens-là ont été confrontés à ces problématiques-là.
Stéphane Massard, les inspecteurs qui font passer les examens, ils sont corruptibles ou pas en France ?
Dans la grande majorité, non. Il faut dire que j'ai jamais trop essayé. Maintenant, des cas pareils ont existé. Et pour en revenir au fait qu'il faut avoir le permis, c'est que c'était miraculeux pour le retrait de points aussi. Parce qu'on retire des points au conducteur et à défaut au propriétaire du véhicule. Donc lorsque le propriétaire n'avait pas le permis, on ne pouvait pas lui retirer. Ou les grands-parents qui avaient encore des permis de conduire à 150 ans. Ça existe toujours. Si je ne me trompe pas, hier il y a eu un gros accident d'une personne qui avait 93 ans.
Bon, ça pose aussi la question de la visite médicale pour conduire. Vous nous appelez en tout cas, on parle du permis de conduire, je crois que vous l'avez compris aujourd'hui. 33 1 84 22 71 71, vous nous suivez également sur Facebook, sur Twitter. En France, on a 1,5 million de candidats par an au permis de conduire. 90% sont des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Et il faut dépenser en moyenne 1600, 1700 euros, je dis bien en moyenne, pour obtenir ce précieux sésame. Il suffit d'interroger les jeunes qui ont obtenu leur permis récemment, ou qui l'ont raté d'ailleurs. Tous ont un souvenir gravé à vie au micro d'Anaït Méridjanian.
J'ai passé mon permis 3 fois, j'ai fait de la conduite accompagnée. Et moi, mon permis, c'était assez laborieux. La première fois que j'ai passé mon permis, je suis rentrée dans un camion et j'ai dû faire un constat. La deuxième fois que j'ai passé mon permis, j'ai grillé un stop. Et la troisième fois, j'ai eu trop la chance. En fait, j'ai eu un examinateur qui ne connaissait pas la région, qui m'a dit « bah allez là où vous voulez ». Et du coup, j'ai fait le parcours que je connaissais par cœur, le seul, et je l'ai eu.
Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Moi, j'ai pas le permis. Je me suis inscrite au permis il y a 2 ans. J'ai passé le code au mois de juillet. Et j'ai commencé à faire mes heures de conduite en septembre. Et là, je suis à 30 heures de conduite. Donc, je devrais bientôt passer le permis. Ça se passe bien. Après, c'est un peu compliqué parce que dans mon école, il y a beaucoup de monde. Et souvent, je fais 45 minutes au lieu d'une heure. Donc, c'est difficile d'avancer et d'apprendre vraiment.
Ouais, en fait, je viens de la campagne. Chez moi, tout le monde le passe. Et là, à 18 ans, quoi. Il n'y a pas trop d'alternatives possibles. Moi, j'étais pas ultra stressé à le passer, etc. Quoi.
J'ai fait 60 heures de conduite, parce que vraiment, je conduisais très mal. J'étais vraiment une mauvaise conductrice, je respectais pas la signalisation. Quand le feu était rouge, bah, je passais quand même. Enfin, je respectais pas grand-chose, quoi. Je l'ai raté la première fois, parce que j'ai franchi une ligne continue. Je l'ai raté la deuxième fois parce que j'ai grillé un feu rouge. Et je l'ai eu la troisième fois parce que le moniteur était sympa.
Moi, j'ai fait une conduite accompagnée pendant 1 an. Ça m'a beaucoup aidé, je trouve, d'avoir conduit avant de passer mon examen, beaucoup, plus que des heures de conduite avec le moniteur. Et donc, je l'ai eu du premier coup avec 31 sur 31.
Je l'ai passé 2 fois et je l'ai loupé 2 fois pour des raisons inutiles. J'ai tous les points à chaque fois, mais je ne l'ai pas eu pour parce que j'ai fait des fautes éliminatoires. La première, j'ai stressé, je me suis trompée de direction. L'examinateur m'a dit de tourner à droite, je suis allée à gauche. Tel un croque-mort, il m'a dit non, c'était à droite. Du coup, j'ai paniqué et j'ai tourné un peu trop lentement. Et du coup, enfin, une erreur vraiment stupide, j'ai tourné trop lentement et du coup, il a touché mon volant. Du coup, faute éliminatoire. Et la seconde, j'ai loupé une priorité pensant que c'était une voie privée.
Du coup, vous allez le repasser ?
J'ai pas encore de date la troisième fois, malheureusement, on n'est pas prioritaire. Enfin, je vais devoir encore passer des heures de conduite alors que j'ai eu tous mes points. Enfin, en soi, je sais très bien conduire, enfin, je suis confiante, etc. Mais c'est le stress et puis c'est la chance, quoi. Il faut de la chance.
Au bout de la rue, là, nous allons prendre la première sur la gauche, monsieur Kerbalek. Non, tournez à gauche, monsieur Kerbalek. À gauche. Mais tournez, putain de bordel, on va se planter là-haut.
Stéphane Massard, ils sont quand même stressés tous ces jeunes hein, quand ils racontent leurs heures de conduite.
Oui, surtout l'examen. On a le stress au début de formation et le jour de l'examen, ça arrive fréquemment qu'on ne reconnaisse plus nos élèves.
Ah bon ? Ils perdent leurs moyens, concrètement ?
On perd les moyens et... le plus grand souvenir, c'est en permis moto, une personne de 2 mètres de haut, pompier, je ne dirais pas, donc beau gabarit, et cette personne a carrément fait un chaos dès qu'il est monté sur la moto, il est tombé avec la moto, il n'a jamais pu passer son examen.
Ah oui,
et c'était quelqu'un qui pourtant était habitué à affronter...
L'émotion, le stress. L'épreuve de conduite est passée de 35 minutes à 32 minutes quand il y a eu la réforme du permis en 2014 là, sous François Hollande pour permettre aux inspecteurs de faire passer encore plus d'examens. On a un peu réduit le délai d'attente après le premier échec parce qu'il faut quand même dire qu'en France, on le rate beaucoup son permis hein, quand même. On est en moyenne à 50% de réussite, 60%. Il y a des départements où on est à moins de la moitié de taux de réussite. Donc c'est quand même une hécatombe. Le délai a été raccourci et ça continue de rester une galère néanmoins.
Bien sûr, maintenant les taux de réussite c'est moyen. J'ai toujours travaillé dans des auto-écoles qui avaient 80% minimum de taux de réussite. Il est vrai que dans ce cas-là, le tarif n'est pas le même.
Oui, mais parce que vous rajoutez des heures.
On va prendre le nombre d'heures. Maintenant, c'est sûr que si on s'arrête sur un forfait 20 heures pour quelqu'un qui n'a jamais conduit...
En 20 heures, on ne peut pas obtenir son permis si on ne sait pas déjà conduire.
20 heures, déjà, il y a beaucoup de théories, bien évidemment. Ce n'est pas 20 heures en train de rouler. Je ne peux pas donner d'explication dans Paris en train de rouler. Rien que moi, j'ai besoin de me concentrer... Et la personne est complètement sourde à l'arrêt.
Le véhicule et là, vous expliquez des choses.
On s'arrête. Donc déjà, rien que l'arrêt est un objectif de travail, hein, parce qu'on ne s'arrête pas n'importe comment sur la route. Mmh. Et ensuite, on donne des explications. Et c'est là, ces explications et les bilans en fin de cours qui sont le plus intéressants. On ne peut corriger ses erreurs que si on en est conscient et que c'est clairement expliqué. Mmh. Et donc, il y a déjà cette théorie. Et puis après, dans les bouchons parisiens, 20 heures, si vous arrivez à rouler maximum 8 heures sur ces 20 heures, c'est déjà bien. Et ça, on ne peut rien y faire.
Alors c'est le problème dans plusieurs grandes villes de France, hein, d'ailleurs, le trafic, les embouteillages. Donc ça réduit effectivement les heures de conduite, le moment passé à conduire. Et vous êtes d'accord que quand même, rien ne remplace la pratique hein.
Bien évidemment.
Ouais. Le permis de conduire, est-ce qu'il est trop cher en France si on prend... d'autres pays, Rémi Josso.
Oui, on voit qu'il y a le stress du permis, le coût du permis. Il y a aussi, il faut y réfléchir, le fait de conduire sans permis de conduire. C'est aujourd'hui une simple amende délictuelle. C'est-à-dire que le législateur, assez étonnamment, a décidé, de banaliser ce type de comportement. Aujourd'hui, quelqu'un qui se fait attraper pour une conduite sans permis de conduire, il encourt 650 € d'amende et c'est tout. Alors, oui, il y a des conséquences.
En cas d'accident et de dommages corporels sur un autre véhicule,
c'est le fonds de
un autre conducteur, là vous allez au pénal. Hein.
Nous sommes déjà au pénal, c'est le fonds de garantie automobile qui va indemniser la victime. Vous ne serez pas, vous, évidemment, indemnisé pour vos propres préjudices. Et puis, vous aurez naturellement à payer toutes ces sommes-là, puisque le fonds de garantie, c'est l'État, vous demandera de rembourser à terme ces sommes.
Donc vous dites que l'État n'est pas assez sévère pour ceux qui conduisent sans permis.
Non, je crois que c'est un très mauvais signal. C'est-à-dire qu'en fait, on dit aux gens, si vous êtes pris la main dans le panier, vous risquez 650 € d'amende. Alors, il y a des gens qui sont très respectueux des règles, évidemment, et qui ne vont pas passer l'obstacle. Et puis d'autres vont se dire, pas vu, pas pris. Et puis si je me fais prendre, c'est 650 € d'amende. À quoi bon aller payer 2 000 € un permis de conduire, y consacrer du temps, etc. etc. Alors oui, ce n'est pas une solution à moyen terme, évidemment, mais il faut aussi comprendre le cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus facilement sanctionnable lorsque vous n'avez plus de permis de conduire, c'est-à-dire que vous n'avez plus de points. Là, vous avez des peines beaucoup plus lourdes que si vous n'avez jamais eu le permis de conduire, vous n'avez aucune formation et que vous conduisez. Enfin, c'est quand même aberrant. C'est aberrant parce que on est dans un système où on doit faire face à un contentieux de masse, on doit faire face à une délinquance qui n'existait pas il y a 20-25 ans, moi j'ai vu l'évolution de ma clientèle, j'allais dire, c'est plus du tout la même. Il y a quelques 10 ou 15 ans, 20 ans, c'était principalement des gros rouleurs, des vrais chauffards, c'est-à-dire des gens qui se conduisent sur la route comme dans la société. Aujourd'hui, c'est monsieur, et j'insiste aussi, madame tout le monde. C'est-à-dire que vous avez un panel représentatif de toute la société française. Et on arrive
qui
avec des chiffres...
Qui commettent des infractions et qui se retrouvent sans permis. Donc, bah voilà, à exactement. Force de perdre des points.
Voilà, et vous avez toute catégorie socio-professionnelle.
Alors, pour revenir au permis de conduire qu'on obtient la première fois, donc qui concerne les jeunes, qui ont peu de pouvoir d'achat s'ils ne sont pas aidés par leurs parents, je posais la question, Stéphane Massard, est-ce que le permis de conduire est trop cher en France ? On va redonner le chiffre, hein, c'est en moyenne 1600-1700 euros.
Tout à fait. Maintenant, ça a toujours été cher. Toujours. C'est pas aujourd'hui que ce permis est cher. Si on regarde l'évolution depuis les années 70, le permis n'a que très très peu évolué. Maintenant, si on parle de prix, bah déjà, il faut m'expliquer une TVA à 20% là-dessus. Ça rejoint un peu les actuellement...
Vous trouvez que c'est une TVA qui est injuste, une TVA à 20% pour ceux qui doivent absolument conduire pour exercer leur
emploi ? Chaque métier, vous devez avoir le permis de conduire. Même si ce métier n'a rien à voir avec le permis, et il ne faut pas me dire qu'à Paris, on a besoin d'une voiture. C'est plus une galère qu'autre chose, une voiture.
Le permis de conduire n'est pas obligatoire dans un CV, que je sache.
Non, mais partout, on vous demande le permis de conduire. J'ai longtemps travaillé dans le social, et c'est ça la première chose.
Est-ce que les auto-écoles poussent à la consommation d'heures ? Est-ce qu'il y a un problème à l'heure actuelle ? Il y a eu un rapport de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes qui a quand même pointé du doigt 72% des établissements qui pratiquent en tout cas des frais injustifiés dans les tarifs.
Pas mal. D'après mon expérience, c'est à peu près ce que je vois. Donc, bien sûr que ça existe. Et ce qui est malheureux, c'est que les moniteurs deviennent des VRP, des représentants, et ils touchent des primes, telles qu'on m'a proposé à moi très souvent, pour vendre des packs. Oui, on est actuel, maintenant c'est des packs. On vend un pack, on touche 10%. Donc on n'est plus du tout enseignant. Moi, mon métier, c'est enseignant. Je ne suis pas vendeur, je ne suis pas là pour escroquer les gens. Et donc ce métier, ça commence à être dur à cause de ça.
Et pour compléter vos propos, la commission des clauses abusives a aussi épinglé beaucoup de contrats d'auto-écoles et même certains d'enseignes qui ont un maillage territorial important où on a des clauses abusives, c'est-à-dire totalement illégales. Et alors c'est vrai que c'est pas un contentieux très récurrent parce que attaquer une auto-école, ça coûte plus cher que les frais qu'on a engagés. Mais il m'est arrivé, moi, d'engager des procédures contre des auto-écoles, notamment j'ai quelques souvenirs d'auto-écoles parisiennes, qui ont été condamnées, et sévèrement condamnées devant les tribunaux, qui pratiquaient par exemple une clause que l'on voit encore, qui consiste à dire à son élève qu'il n'a pas le droit ou on ne l'autorise pas à passer son code s'il commet plus de 6 ou 7 fautes. Alors qu'en réalité, l'élève a le droit de passer son code quand il l'entend. Et ces clauses-là ont été jugées illégales.
Ça part d'une logique et de dire que vous n'avez aucune chance d'avoir votre code si vous commettez autant d'erreurs aux exercices.
D'accord, je le comprends qu'au départ, peut-être que les auto-écoles, quand ils doivent, quand ces établissements doivent jouer avec les places, etc., se disent on va présenter des élèves qui sont prêts plutôt que des élèves qui ne le sont pas. Ça je peux l'entendre. Mais de fixer cela au niveau même de l'erreur, c'est-à-dire 5 fautes pour avoir son code, on ne peut pas faire obstacle à celui qui veut le passer coûte que coûte. Et après, c'est sa responsabilité. L'élève qui dit « moi, je fais 8 fautes en ce moment, mais je me sens prêt pour le passer », eh bien, on ne peut pas, on ne doit pas pouvoir l'interdire. Voilà.
Alors, comment on peut réduire le coût pour apprendre à conduire correctement et avoir son permis de conduire, Stéphane Massard ?
Déjà, excusez-moi, je vais déjà défendre les auto-écoles. Nos taux de réussite vont directement avec le nombre de places. Donc, c'est pour ça que les auto-écoles, souvent avec qui donnent des prix très très bas pour l'inscription, eh ben, vous n'aurez pas de place d'examen. Alors qu'une auto-école qui a de très bons taux de réussite, donc c'est sûr qu'on met des barrières, et chez nous par exemple c'était 3 fautes, hein, c'était pas 5, 3 fautes au code, c'est dommage, mais on ne met que les meilleurs. Maintenant, nous,
c'est pour éviter de faire perdre du temps aux examinateurs en fait, hein, avec des candidats qui ne sont pas prêts.
De toute façon, les examinateurs, maintenant c'est des facteurs, hein. Je résume un peu
pour
la situation.
Code. Hein. Pour le code. Il y a une externalisation de l'épreuve, deux opérateurs agréés par l'État.
La loi pour l'examen de conduite nous dit qu'il faut présenter que des gens au niveau, comme pour aller sur les voies rapides, par exemple. Et d'un autre côté, il y a un contrat commercial, la personne a payé les heures, elle doit y aller. Donc nous, on perdra quoi qu'il se passe.
Bon, alors répondez à la question, est-ce qu'on peut réduire le coût du permis de conduire? Comment on peut s'en sortir à moindre frais en apprenant correctement à conduire?
Alors la première chose, c'est pas très dur. Hein. On peut descendre le prix immédiatement de 20%. Pourquoi le permis de conduire a une TVA aussi chère? Et ensuite, il y aurait d'autres solutions comptables au niveau de la défiscalisation du gazole, des choses comme ça. D'ailleurs, ce serait bien que les auto-écoles passent en essence, hein, ce serait pas si bête que ça aussi. En électrique, c'est souvent fait. Hein. À Paris, vous avez beaucoup de véhicules électriques, parce que maintenant, en France, vous avez aussi... Il y a les voitures automatiques et le permis automatique.
Eh oui.
Malheureusement, ce permis automatique, quand la personne ira chercher du travail, c'est pas ce qu'il y a de recommandé.
Ah oui,
parce qu'on vous demande de conduire toutes les voitures.
Exactement. Alors là, vous nous parliez de la TVA, ça c'est sur un plan politique, mais pour les familles, pour les jeunes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut réduire le prix du permis de conduire?
Alors, le forfait de base des 20 heures, on y restera. Maintenant, il y a une très bonne évolution. Nous avons la conduite accompagnée qui est la meilleure de toutes les formations, c'est reconnu par tous les professionnels, que ce soit les moniteurs, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les assurances. Oui, maintenant c'est à partir de 15 ans la conduite accompagnée aussi, ce qui veut dire qu'un jeune pourrait conduire 3 ans avec ses parents.
Ouais, et encore faut-il qu'il ait des parents expérience. Qui soient disponibles pour
maintenant,
ça, enfin, des adultes. 3000 km hein, quand même, il faut faire accompagner d'un proche.
3000 km, et... maintenant il n'y a personne pour les surveiller. Mais...
C'est ça. Oui, c'est ça.
Et on prend ses 20 heures de cours et évidemment il faut obtenir son code avant.
Sur ce modèle de conduite accompagnée, nous avons la conduite supervisée. Et ça, c'est vraiment un très bon truc. Ça peut se faire avec la famille, avec des amis. C'est le principe de la conduite accompagnée.
C'est pas très connu, la conduite supervisée. Comment ça fonctionne?
Maintenant, toutes les auto-écoles le recommandent. Parce que nous aussi, nous avons tellement de délais d'attente et souvent tellement de monde inscrit. Parce qu'on ne vit qu'avec le chiffre maintenant. C'est plus avec notre qualité d'enseignement qu'on vit. C'est avec le chiffre. Faire beaucoup d'inscriptions. Et regarder le nombre d'auto-écoles qui ferment.
La conduite accompagnée, ça permet aux élèves âgés de 18 ans ou plus de conduire avec un accompagnateur avant de passer l'épreuve pratique. C'est bien ça, vous corrigez?
À partir de 15 ans, la conduite accompagnée.
Non, mais la conduite supervisée. La conduite supervisée, on est bien d'accord. Hein, ouais. Donc ça, c'est bien pour les jeunes qui se réveillent un peu tard, par exemple.
C'est très bien lorsqu'on peut avoir des accompagnateurs avec une voiture et des gens aussi qui maîtrisent un peu la conduite. Parce que des fois, justement, on a des accompagnateurs qui vont nous casser le boulot. Parce qu'ils conduisent, comme en France, chacun conduit un peu à sa façon, avec ses propres règles. Et malheureusement, des fois, ils cassent le travail. Mais ça veut dire que ces gens-là n'ont pas écouté l'auto-école. Parce que nous, ce qu'on demande aux accompagnateurs, c'est de venir dans la voiture et d'avoir le même point de vue que nous. C'est-à-dire que le programme de formation.
Et il faut une voiture à double commande?
Pas du tout.
Pas forcément.
Maintenant, on peut très bien louer une. Vous avez pleine de boîtes qui louent des voitures auto-école maintenant. Mm-hmm. Et ça peut être une bonne chose. Ouais. Du moment qu'ils ne louent pas l'accompagnateur avec. Ça, c'est interdit par la loi.
Parce que ça, c'est quoi?
Et malheureusement, il y a beaucoup de moniteurs qui sont devenus accompagnateurs.
Ouais. Vous nous appelez les voisins et les voisines parce que le permis de conduire, c'est quand même pas une toute petite étape dans la vie. 33 1 84 22 71 71.
M'amuse, me mente, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime. Je suis pas beau.
Super Chérie M chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, on parle du permis de conduire. Galère et succès, vous nous appelez, bien évidemment, pour nous poser également vos questions sur l'apprentissage de la conduite. Parce que quand même, la base du permis de conduire, c'est qu'il y ait le maximum de sécurité routière dans un pays. On en discute avec vous, Rémi Jossolme. Vous êtes avocat spécialiste du droit routier, président de l'Automobile Club des Avocats, et Stéphane Massard, vous exercez en région parisienne le métier de professeur de conduite. On prend une auditrice qui nous appelle, Ninel de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Ninel.
Bonjour, c'est Miel, voisin.
Ninel, vous avez une vraie question, une vraie difficulté, je crois, c'est que vous êtes une personne handicapée, vous êtes en fauteuil roulant, si j'ai bien compris.
Oui, c'est bien ça.
Et vous avez tenté à plusieurs reprises de passer votre permis de conduire ?
Disons, pas que j'ai tenté, j'ai essayé de trouver des structures qui pouvaient m'offrir la formation. C'était pas forcément évident.
Oui. Parce que vous, la problématique, c'est d'avoir un véhicule qui soit adapté, c'est bien cela ?
Oui. En fait, ce qu'ils m'ont dit exactement, c'est qu'il fallait un appareillage de simulation et qu'ils ne l'avaient pas. Ou alors des voitures adaptées.
Oui. Ça veut dire que chez vous au Cameroun, personne étant handicapé ne peut passer son permis de conduire à partir du moment où il n'a pas la validité, le bon fonctionnement de ses deux jambes ?
Non, j'ai des amis, j'ai des compères qui, comme moi, sont en fauteuil roulant et qui ont des voitures, qui ont des permis. Mais ils m'expliquent qu'en général, ils s'octroient une voiture. Ils l'adaptent, ils apprennent à conduire au quartier. Bon, bref, seuls. C'est juste après, ils partent, je ne sais pas, à l'auto-école, je ne sais pas trop comment ça se fait, ça se fait, et on leur octroie un permis. Mais c'est pas à l'auto-école qu'ils apprennent.
C'est ça. Donc, en fait, tout ça se fait de manière totalement informelle. Et le permis de conduire, il s'obtient de manière légale ou pas dans ces cas-là ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la corruption, mais en tout cas, ils me disent... Tout ce que tu as fait, va prendre au quartier, puis tu pars là-bas et on va t'octroyer le permis en question. Donc, je me dis que ce n'est pas très, très légal.
Ouais. Il faut un bon bricoleur pour adapter les véhicules. Merci, Ninel, de nous avoir appelé. Ceci dit, le problème du handicap, Stéphane Massard, c'est une vraie question pour apprendre à conduire.
Tout à fait. Et il existe des véhicules aménagés. Maintenant, ça vaut une fortune.
Et dans les auto-écoles, comment ça se passe pour apprendre à conduire ?
On est obligé d'avoir des véhicules aménagés, donc bien évidemment ce sera des véhicules automatiques, avec un permis véhicule automatique, et par contre l'aménagement c'est sur la carte grise, en France on ne peut pas bricoler le véhicule, faut que ça passe en expertise, la carte grise est bien heureusement.
C'est plus compliqué pour les personnes handicapées de passer leur permis et de trouver un véhicule disponible dans une auto-école qui est prête à accorder du temps ?
Très compliqué, ça va surtout être l'éloignement entre l'auto-école et la personne.
Parce que toutes les auto-écoles n'ont pas ce type de véhicule ?
C'est vraiment très rare. Et il y a les associations où il y aura quelques auto-écoles de l'association qui auront le véhicule. Et les autres membres vont aiguiller vers lui. Mais c'est très compliqué, ces véhicules coûtent très très cher aussi.
Ouais.
Et peu de monde, donc pour l'amortir, c'est difficile.
On est en ligne avec un moniteur d'auto-école, Fabie Jaglar, à Brazzaville. Bonjour Fabie Jaglar. Est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes en ligne avec nous, Fabie Jaglar ?
Oui, je vous écoute.
Oui, vous êtes moniteur à l'auto-école Braza, au Congo-Brazzaville, à Brazzaville. Vous entendiez cette auditrice, Ninel, au Cameroun, sur les personnes handicapées qui n'ont pas l'usage de leurs jambes. Ce sont des cas de figure que vous rencontrez, vous, également ?
Régulièrement, en effet. Dans la plupart des auto-écoles de Brazzaville, ce type d'apprentissage n'existe pratiquement pas.
Oui.
Vous venez à Brazzaville, vous allez faire le tour de toute la ville, vous ne trouverez aucune école qui vous fera ce genre de prestations, en effet. C'est un problème délicat.
Oui. Quelle est la réglementation pour passer le permis au Congo-Brazza ?
Alors, pour le faire, il faut commencer par déjà s'inscrire dans une école agréée, par l'État bien sûr. Voilà, et une fois qu'on est inscrit à cette école, il va falloir subir une formation d'un mois. Et donc, pendant un mois, vous avez à subir des épreuves simultanément et au code et à la conduite. Et au bout donc, de cette formation, l'auto-école vous présente un examen de permis de conduire et organisé par les institutions étatiques. Voilà.
On paye à chaque étape hein, pour passer son permis de conduire, c'est-à-dire qu'on va payer des droits d'inscription, on paye ensuite au moment de l'examen, c'est bien cela ?
C'est cela. En fait, il va falloir d'abord commencer par payer la formation dans l'auto-école. Et à l'auto-école, chez nous, le prix homologué est à 72 500, voyez-vous. Donc, pour un élève qui veut s'inscrire et passer son permis, il est appelé à payer 72 500 et c'est quand même un prix énorme pour la majorité des Congolais. Mais il y a des astuces. On permet à ceux-là de pouvoir soit avancer ou, lorsque c'est possible, de payer cash. Mais la plupart des candidats, ils commencent par juste avancer minimum 20 000 francs ou plus, 20 000 francs CFA, le reste est échelonné.
Ouais.
Et autant qu'au bout de cette formation, pour passer le permis, chacun des candidats est appelé à constituer un dossier et à payer 22 000 francs comme frais de participation à l'examen. Ce qui va pratiquement à 100 000 francs CFA pour passer l'examen.
Alors,
donc, une fois qu'on a passé, voilà.
Au total, un permis passé en toute conformité, ça revient en tout cas à plusieurs centaines d'euros. Hein. Vous avez une auto-école qui est parfaitement déclarée. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut apprendre à conduire qui ne sont pas des auto-écoles déclarées ?
En effet, c'est une concurrence déloyale que la plupart des auto-écoles conformes de la place déplorent. Parce que vous trouverez sur la place de Brazzaville des auto-écoles qui roulent librement avec les enseignes auto-écoles, mais qui ne sont ni déclarées ni reconnues par l'État. Donc c'est vraiment une concurrence déloyale qui défavorise la plupart des auto-écoles réglementées et agréées. Voyez-vous, parce qu'ils vous volent en fait des élèves qui devaient venir dans ces auto-écoles-là. Voyez-vous. Donc c'est un vrai mal, c'est un vrai mal.
Merci beaucoup de d'avoir été en ligne avec nous, Fabie Jaglard, donc moniteur d'auto-école à Brazzaville. Très très bonne journée à vous. Un auditeur souhaiterait interroger nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est Fran qui est à Port-Gentil au Gabon qui veut poser une question à vous, Rémi Jossaume, sur les équivalences de permis de conduire. Bonjour Fran.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes chauffeur, c'est votre métier, et vous vous posez des questions sur les équivalences de permis de conduire.
Oui, également. Je voudrais savoir effectivement le permis gabonais, s'il est bien valable en France, et s'il faut par exemple immigrer en France. Est-ce que le même permis qui permet de conduire les camions et les semi-remorques ici ne présente pas de soucis pour conduire en France?
D'accord, donc votre question, elle porte sur le permis poids lourd, hein, et pas sur le permis B, en tout cas pas seulement. C'est une vraie question parce que les équivalences de permis de conduire sont soumises à une réglementation assez stricte, Rémi Jossaume.
Oui, alors très stricte et avec une évolution de la jurisprudence qui rend ce type de contentieux de plus en plus important. Il y a une liste officielle qui est établie par l'administration française et qui va recenser et lister l'ensemble des pays avec lesquels la France a un accord de réciprocité et donc de reconnaissance des permis de conduire. Alors évidemment, dans l'Union européenne, ça pose aucune difficulté. Hors Union européenne, quasiment tous les pays d'Afrique sont concernés, et notamment le Gabon. Et toutes les catégories du permis de conduire sont reconnues, dont le permis poids lourd, en France. Alors évidemment, il y a des conditions, sans être trop techniques, qui sont les suivantes. Lorsque la personne vient en France, elle dispose d'un délai d'un an pour pouvoir engager la procédure d'échange de son permis de conduire, et les autorités françaises vont donc lui délivrer une forme d'attestation de dépôt de demande d'échange qui va permettre une instruction donc du dossier. Et là, disons clairement les choses, les autorités françaises ont souvent une forme de présomption de non-authenticité des permis qui sont présentés parce que on l'a entendu, parfois les permis de conduire sont obtenus de manière un peu plus frauduleuse que dans d'autres états.
Ça veut dire que on n'a pas forcément, enfin, en fonction de si son pays figure dans la liste des équivalences de permis de conduire ou pas, ça peut changer ou pas, finalement, ou pas. Si le Gabon est dans la liste, il est dans la liste.
Oui, il est dans la liste, c'est-à-dire que ça lui ouvre le droit de demander l'échange. Après, les autorités françaises vont s'assurer de l'authenticité.
Donc, ce n'est pas automatique.
Pas d'automaticité.
On avait une autre question comme ça d'un auditeur qui est gabonais, qui est à Paris, qui posait la question sur le permis B, donc le permis voiture. Est-ce que, donc, vous y avez répondu, mais par exemple, pour mieux répondre à Fran, qui lui est chauffeur routier, est-ce que pour conduire un poids lourd, les autorités vont être plus... Ça va être plus difficile, ça va être plus compliqué d'obtenir l'équivalence ou pas forcément?
Non, c'est tout ou rien.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, tous ces permis sont convertis en permis français ou rien du tout.
D'accord. Hein.
Par contre, vous avez des États avec lesquels il n'y a pas d'accord. Alors, ça va être certains États des États-Unis, par exemple. La Chine, c'est très récent, ça fait que quelques mois qu'il y a des accords de réciprocité. Il y a une liste qui est sur le site de la diplomatie française. Encore une fois, quasiment tous les permis de l'Afrique sont ouverts à l'échange de permis avec un permis français.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui nous appelle de Goma, à l'est de la RDC. Bonjour Ruben.
Bonjour madame, bonjour les voisins, les voisines.
Ruben, vous êtes un voisin congolais, vous conduisez avec ou sans permis?
Sans permis, madame.
On vous écoute, hein, Ruben. Allô? Vous êtes à l'antenne, Ruben.
Très bien, merci beaucoup. Je félicite l'émission qui parle du permis de conduire. C'est une matière vraiment très, très intéressante. Fort malheureusement, à l'est de la RDC, plus précisément à Goma, on peut ou ne pas avoir le permis de conduire et conduire sans beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je ne vous apprends rien parce que j'ose croire que vous maîtrisez bien qu'en RDC, nous avons le permis national avec son prix à part, mais aussi le permis au niveau provincial, si on peut le dire, qui a aussi son prix à part. Alors, à Goma, les conducteurs envisagent mieux ne pas même acheter le permis de conduire parce qu'on peut ou ne pas en avoir et on sera arrêté par les policiers de roulage. À la place, ils souhaitent mieux posséder une petite somme d'argent à la main qu'on peut remettre aux policiers de roulage que posséder le permis de conduire.
C'est ça. Ce que vous sous-entendez, c'est que de toute façon, il faudrait remettre cette somme même si vous aviez un permis de conduire en règle.
On peut en avoir en règle, on est arrêté et là on paye.
Ah oui.
Comme on ne peut pas avoir le permis et on remet la petite somme d'argent et on circule librement.
Merci Ruben de nous avoir appelé. Très très bonne journée à Goma et soyez prudent hein, au volant. Parce que pour en revenir quand même à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est quand même l'accessibilité du permis de conduire. Bien sûr, c'est très important pour des gens qui ont besoin de ce permis pour travailler, pour gagner leur vie. Mais c'est aussi la condition de la sécurité routière. Rémi Jossaume, vous dites souvent en France que garder son permis, c'est bien plus compliqué que d'obtenir son permis. Vous exagérez un peu
non,
quand même, parce qu'on a entendu les témoignages des jeunes au début de l'émission.
Non, je n'exagère pas. Quand vous lisez les chiffres de 2017, qui sont les derniers connus, où l'administration française nous indique que 40 millions de PV sont dressés en 2017, 15 millions de points ont été retirés sur des permis de conduire, on est à peu près à 100 000 permis invalidés. Alors je pense qu'on ne prend pas tous les chiffres là en compte parce qu'il y a ceux qui sont invalidés, qui sont réactualisés, qui sont rectifiés. Bref, lorsque vous êtes soumis à ce rouleau compresseur, bah effectivement, c'est compliqué aujourd'hui. Et qui peut dire qu'il a tous ses points sur son permis de conduire et qu'il n'a jamais été verbalisé?
12 points, la totalité.
C'est sûr, 12 points, oui, effectivement. Et ça va très vite.
Pour un jeune qui vient d'obtenir son permis
de conduire,
c'est 6 points.
C'est 6 points en probatoire. sauf s'il a, il a eu son permis, comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre du permis en conduite accompagnée, il va gagner 2 points chaque année, ou 3 points s'il est en conduite accompagnée. D'où aussi l'intérêt de faire de la conduite accompagnée. Je ne vais pas faire l'apologie de l'infraction, mais en matière d'alcoolémie, par exemple, un jeune permis, il est soumis à un taux maintenant qui est de 0,10 mg. En d'autres termes, c'est quasiment une gorgée de cidre. Bon. Eh bien, il peut perdre son permis de conduire parce qu'il a bu une gorgée de
trop. Alors, il faut quand même aussi dire que les jeunes conducteurs sont surreprésentés dans les accidents graves et que l'une des causes les plus importantes, c'est la conduite en état d'ivresse. D'ailleurs, ce n'est pas le mauvais apprentissage de la conduite. Hein.
Oui, effectivement, mais... Après, ce sont des statistiques. Il est toujours difficile de connaître les causes exactes d'un accident. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'expérience, je crois que c'est le meilleur passeport pour être sur la route. Et je crois aussi, c'est que ces jeunes permis, enfin, vous savez, c'est comme un étudiant quand il sort de l'université. Moi, j'avais l'habitude de dire ça. On ne sait pas faire grand-chose. Bon, bah, quand vous sortez avec votre examen du permis de conduire, vous avez certains automatismes, on va dire primaires, mais tout le reste, vous allez l'apprendre au fur et à mesure par l'expérience.
Ah bon,
et j'ai presque envie de dire que...
Vous parlez à un instructeur d'auto-école.
Oui, mais je pense qu'il le partage.
Entièrement d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Entièrement.
Donc un élève, un étudiant, un jeune qui vient d'obtenir son permis de conduire, en fait, il ne sait pas conduire.
Il a appris à rouler à 30 à l'heure en ville.
Oh, attendez, pour ceux qui prennent leur cours de conduite dans une grande ville française.
Oui, mais... À la campagne, oui, à quelques liaisons. Et le permis coûte cher aussi à la campagne. Parce que à chaque fois, il faut beaucoup de déplacements pour aller sur les centres examens. Et malheureusement, en auto-école, passer un permis, c'est travailler le centre d'examen. Faire soi-disant les reconnaissances des itinéraires.
Les parcours favoris des
examinateurs. Moi, j'ai passé mon examen à Marseille, j'arrive à travailler à Paris, mais bon.
Ouais. Ça veut dire quand même... Mais vous entraînez quand même, vous travaillez quand même avec vos élèves sur des voies rapides, rassurez-nous, non ? Vous êtes en région parisienne, il y a quand même des endroits où on peut rouler un peu plus vite pour travailler les réflexes et la sécurité.
En ordre général, pas trop. Moi, oui, mais ça apporte des problèmes, surtout des retards avec les bouchons. Quand vous vous faites bloquer sur l'autoroute, c'est direct 1h30 de retard. Donc, je comprends que mes collègues ne le fassent pas.
80 km/h sur les routes secondaires en France. Rémi Jossaume, vous attendez que le gouvernement revienne sur cette interdiction. Vous, en tant qu'avocat spécialiste du droit routier et président de l'Automobile Club des Avocats.
Bah, ça me paraît compliqué de maintenir une décision qui est aujourd'hui contestée par la majorité des Français et des usagers de la route, qui n'est pas démontrée. Et qui, c'est les mots du président, aurait été pris par un certain manque d'intelligence, puisqu'il a dit lui-même qu'on pourrait revenir à des mesures plus intelligentes. Moi, je ne suis pas un anti-80 km/h, je suis un anti-mesure générale et absolue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où, oui, 80 km/h, c'est très adapté, peut-être même encore moins, et puis d'autres voies de circulation, on peut être à 90 km/h. Il faut arrêter avec ces mesures générales et absolues, il faut un peu plus... de décentralisation, plus de confiance aux acteurs locaux qui sont à même de savoir à tel ou tel endroit si la vitesse est adaptée. Encore une fois, il faut arrêter de faire des lois générales et penser que tout le monde va rentrer dans le moule. Ça ne marche pas. Et preuve en est, il y a aujourd'hui un maintien des vitesses. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je le vois dans l'infractionniste. Au lieu de se faire attraper à 30 ou 40, les gens sont attrapés avec 10 de plus.
Il y a 60% des radars qui sont vandalisés, hein, là, quand même,
depuis les
80 km/h.
Donc, oui,
forcément, on a appuyé un peu sur le champignon.
Oui, mais enfin bon, vous savez, ça fait longtemps qu'on freine devant le radar et qu'on réaccélère après le radar. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus d'unités mobiles sur les routes françaises, c'est ça aussi.
Mais hein, alors, des routes à 80 km/h, d'autres à 90, c'est déjà compliqué, le code de la route. Comment on fait en tant qu'instructeur, Stéphane Massard ?
Ben, on lit les panneaux.
Oui, d'accord, on lit les panneaux.
Pour revenir à ce qu'on disait, le préfet, avant ces lois, on a des lois, alors que déjà il y a des lois qui existent, le préfet pouvait changer les limitations de vitesse sur une partie, et ceci en fonction des rapports de sécurité. Et ça, à la limite, mais qu'on nous remette des CRS à moto sur la route et tout ira bien. Enlevez les motards, enlevez les radars et remettez les motards CRS. C'était les seuls à travailler sur la route. D'ailleurs, avec eux, on n'a jamais de soucis.
Pourquoi ? Quel était l'avantage par rapport à des radars ?
Ben, c'est qu'ils vont s'adapter aux conditions. D'accord ? Donc une personne qui est prise la main dans le sac, ils vont faire un peu la part des choses. Ce ne sont pas des automates, ce sont des êtres humains. Et franchement, les motards CRS, dans la grande majorité, il n'y a pas de souci.
Non, mais c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est une police de la route. Hein.
Une auditrice nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Lise Laure, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, vous êtes en région parisienne.
Voilà, je suis en région parisienne. J'entendais tout à l'heure le monsieur dire qu'il y a, concernant les équivalences, beaucoup de soupçons pour les permis étrangers. Et je voulais juste ajouter qu'il y a tellement de soupçons que généralement, les équivalences pour ces permis qui sont pas tous des permis faux, mais qui peuvent être des permis en règle, même s'ils sont étrangers.
Bien sûr.
Alors, parfois, on trouve des sociétés d'assurance qui les assurent, en toute en règle. Et ça, je trouve que parfois, quand vous êtes arrêté par la police, alors vous vous trouvez très mal parce que la police vous dit, mais comment ça se fait? Vous avez une carte d'assurance en règle, tout va bien, mais vous n'avez pas le droit de circuler. Donc, à force de refuser, il y a une illégalité et qui, de fait, est finie par devenir presque légale, même si on finit par être arrêté par la police. C'est pas très bien surveillé.
Ouais. Ça peut sembler quand même très paradoxal, hein, franchement.
Oui,
là,
c'est vrai, l'auditrice, que, mais...
Donc, une compagnie d'assurance en France accepte d'assurer un conducteur qui n'a pas de permis légal pour rouler en France.
Oui, mais pourquoi? Parce que l'assureur, lui, il n'en sait strictement rien. Quand la personne vient contracter un contrat d'assurance, lui présente un permis de conduire qui a l'apparence d'être un vrai permis de conduire d'Afrique ou de je ne sais autres pays, l'assureur n'a pas les moyens techniques et juridiques pour dire, moi, je vous assure pas, parce que j'estime que votre permis est irrégulier. Il n'en sait strictement rien, ça, l'assureur. Par contre, effectivement, si le permis est faux, là, l'assurance, elle ne couvre plus. Hein, donc la personne répondra de l'ensemble des frais qui seront engagés dans la procédure. Mais là, on est sur effectivement une forme de peut-être d'incohérence du système. Mais
vous accompagnez, vous avez des clients hein, qui sont sur des contentieux comme ça pour des équivalences de permis.
Mais j'en ai de plus en plus parce que pourquoi? Parce que d'abord un, c'est compliqué d'avoir le permis en France. Quand on a le permis à l'étranger, on se dit ben, pourquoi finalement je peux pas conduire en France avec alors qu'il y a des accords. Et puis on voit aussi que l'administration commet parfois certaines erreurs d'appréciation. Vous pouvez avoir tous les documents d'authenticité, de véracité. Ils vont estimer que bah, vous ne justifiez pas que vous avez passé votre permis de conduire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que vous étiez sur place, par exemple.
Sur le plan juridique, ce que nous disait Lise Laure, c'est qu'en tout cas, un client qui vous dirait « mais moi, mon véhicule est assuré », c'est évidemment, c'est pas une preuve, c'est pas quelque chose qui peut aider les autorités à octroyer l'équivalence.
Ah, pas du tout. Ouais. Mais de toute façon, un véhicule, dès qu'il est sur la voie publique, même quand il est dans votre garage, il doit être assuré. Que vous ayez le permis ou pas.
Merci en tout cas à Lise Laure de nous avoir téléphoné. Merci à vous également. Stéphane Massard, juste un dernier conseil pour la route, pour bien apprendre à conduire, en quelques mots.
Essayez d'avoir un moniteur avec qui vous vous entendez bien, une auto-école, suivre la formation. Voilà.
Et puis conduire prudemment. Merci à vous Stéphane Massard et merci à vous Rémi Jossaume. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Vous pouvez bien sûr écouter toutes les émissions sur l'appli RFI Pure Radio ou sur le site rfi.fr en podcast. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de l'emploi informel dans les pays en développement. Système D hyper compétitif ou piège à pauvreté. Si vous travaillez dans l'informel, surtout appelez-nous. Vous aurez la parole en direct dès demain.